Bonjour à toutes et à tous. Un bon brief vous attend, comme chaque matin. Nous sommes vendredi 4 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
Alors de quoi va-t-on vous parler dans ce brief ? D'une brasserie belge qui renonce à la grande exportation pour des raisons écologiques, de Solvay qui embarque à bord d'un projet géant de batterie aux États-Unis et de Vincent Van Petegem à qui les sacs de nœuds ne font pas peur. Je suis Sunshim Courrier et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info dès 7h.
C'est peut-être bientôt la fin d'un système qui agace particulièrement la Commission européenne depuis 15 ans, celui de l'avantage fiscal lié au compte d'épargne sous sa forme actuelle, car la Belgique pourrait y mettre un terme. Le ministre des Finances, Vincent Van Petegem, s'est mis sur le dossier. Il a demandé à la Banque nationale et à l'autorité des marchés financiers de donner leur avis sur un changement de règles. C'est une vieille affaire dans laquelle notre pays a été plusieurs fois condamné. Philippe Gallois, vous qui êtes un de nos spécialistes en matière fiscale, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui pose problème dans ce dossier-là ?
En Belgique, donc, on exonère les intérêts des comptes d'épargne pour un montant maximum de 980 euros par épargnant. Et cette exonération, elle est applicable aux comptes d'épargne qui respectent des conditions spécifiques vraiment à la Belgique. C'est vrai que dans la loi, on a écrit que si des banques étrangères proposent des conditions analogues, eh bien elles peuvent bénéficier aussi de l'exonération de précompte. Mais en pratique, aucune banque ne peut se permettre d'offrir des conditions pareilles, c'est trop compliqué pour elles. Donc ça ne va pas par rapport au problème de libre prestation de services qui dit que, à travers l'Union européenne, n'importe quelle entreprise doit pouvoir aller concurrencer une autre, même dans un pays étranger, en répondant à toutes les conditions voulues. Ce qui nous pend au nez, c'est une nouvelle condamnation par la Cour européenne de justice, et là, ce serait avec des astreintes. Et ça implique que tant qu'on ne règle pas le problème, chaque jour qui passe, on doit payer un montant à l'Europe. La dernière fois que ça s'est produit, c'était pour la fiscalité des résidences secondaires à l'étranger, où tout à coup, dans le mois, on a trouvé une solution. Ici, le ministre des Finances a l'air de vouloir prendre le problème à bras-le-corps un peu plus vite pour éviter qu'on en arrive là.
Et ce n'est pas la première fois que Vincent Van Petegem agit comme ça, en se saisissant de dossiers plutôt lourds. Philippe Gallois, vous trouvez même en lui une capacité rare à défaire les nœuds. C'est ce que vous nous dites dans votre édito d'aujourd'hui.
Oui, on a pu constater déjà dans plusieurs autres dossiers que Vincent Van Petegem a appliqué des solutions assez pragmatiques et surtout, on voit qu'il a écouté les critiques des juges. Quand la Cour constitutionnelle a recalé la première version de la taxe sur les comptes-titres, il a repris le dossier, qui n'était pas le sien, hein, c'est pas lui qui l'a inventé, et il s'est dit « bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Comment est-ce qu'on peut résoudre le problème ? Et il est revenu avec une nouvelle taxe compte-titres qui était vraiment beaucoup plus sûre sur le plan juridique. Voilà, c'est enfin quelqu'un qui semble avoir des compétences fiscales ou en tout cas être bien entouré sur ce plan-là, qui semble aussi être assez pragmatique et ne pas s'encombrer de considérations purement idéologiques comme ça a peut-être été le cas pour certains de ses prédécesseurs.
Le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 n'a pas laissé la Belgique indifférente. Il y a environ un mois, des inspections ont été menées autour des infrastructures critiques en matière d'énergie. Le verdict est tombé et il est sans appel. Il faut renforcer la sécurité contre les cyberattaques. Et ce sera chose faite puisque le gouvernement fédéral a dégagé une enveloppe supplémentaire de plus d'un million d'euros par an à cet effet. La liste des fournisseurs de services essentiels a été allongée de 3 à 33 entités juridiques qui font l'objet d'une attention particulière. Il y a de grandes chances que parmi celles-ci se trouvent les infrastructures gazières en mer du Nord. Le projet prévoit aussi d'embaucher 18 personnes spécialisées, tant en sécurité physique qu'en cybersécurité, dans les 3 ans. Oui, allô ? Vous dites qu'il pourrait y avoir un nouveau rapprochement entre deux entreprises de télécommunications qui pourraient faire de l'ombre à Proximus, numéro 1 en Belgique ? Ah oui, car Telenet est en discussion avec Orange pour utiliser le réseau VOO que la marque d'origine française est sur le point d'acheter. L'accord de vente par Nethys n'a même pas été donné par la Commission européenne qui enquête sur une éventuelle position dominante, qu'Orange essaye déjà de rentabiliser sa possible future acquisition. Mais quel est l'intérêt pour Telenet, numéro 2 en Belgique ? Xander Vlassenbroek, vous vous êtes penché sur la question.
Alors, il faut savoir que Telenet, en fait, est normalement actif qu'en Flandre. Et donc, pour Telenet, ça voudrait dire qu'il serait d'un coup actif sur tout le territoire belge grâce à ce nouvel accès au réseau de VOO. Alors, forcément, la Commission européenne, elle est contente d'entendre ça. Normalement, ça devrait jouer en la faveur du rachat de VOO par Orange, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait du coup bien trois opérateurs au sud du pays, parce que le rachat de VOO, initialement, sous-entendait que le troisième opérateur allait disparaître au sud du pays. Le problème, c'est que pour Proximus, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que, en fait, Proximus sera un peu menacé par cette arrivée de Telenet en Wallonie et dans les dernières communes bruxelloises où Telenet n'est pas encore présent, parce qu'en fait, Proximus a une position dominante sur le marché wallon qui représente en fait 60% de sa clientèle, alors que Proximus en Flandre est un peu moins actif. C'est pour ça que Proximus a chuté en bourse après l'annonce. Et ça met aussi en question, du coup, les plans d'infrastructure de Proximus, qui investit énormément dans ce qui est fibre optique. Donc, c'est un peu une sorte de double peine pour Proximus de voir ces deux acteurs challenger se rassembler autour d'un projet commun.
Les nouveaux subsides américains offriraient apparemment des conditions avantageuses pour les nouveaux entrants dans la fabrication de batteries aux États-Unis. En tout cas, Solvay s'engouffre dans la brèche. Le groupe belge de chimie va participer à un investissement autour de 850 millions de dollars dans le but de créer une co-entreprise avec le géant pétrochimique mexicain Orbia. Comme ça, naîtra la plus grande unité de production de polyfluorure de vinylidène d'Amérique du Nord. J'en reviens pas d'avoir réussi à le dire. Derrière ce nom barbare se cache un élément essentiel pour le revêtement des batteries. Ce projet permettra de participer à une sécurité d'approvisionnement voulue par les États-Unis. Un pour les matériaux de base et un autre pour le produit fini situé dans le sud-est des États-Unis. Tous deux pleinement opérationnels d'ici 3 ans. D'ailleurs, hier, Solvay a annoncé des résultats trimestriels records avec un chiffre d'affaires époustouflant à plus de 3,5 milliards d'euros contre 2,6 à la même période l'an dernier. Parlons à présent d'une décision courageuse qu'a pris il y a quelques mois, mais on vient de l'apprendre, la brasserie artisanale Brussels Beer Project. En accord avec l'esprit de l'entreprise, elle renonce à l'exportation de ses produits dans 8 pays hors de l'Union européenne afin de limiter ses émissions de CO2 et de se recentrer sur le continent. La brasserie vient d'obtenir une certification B Corp qui prouve qu'elle met un point d'honneur à respecter l'environnement et à faire des efforts en matière de gouvernance et de transparence. C'est la 2e brasserie en Belgique et la 4e en Europe continentale à décrocher cette distinction. Olivier De Brouwer, l'un des cofondateurs de Brussels Beer Project, nous explique l'idée.
Il faut savoir que Brussels Beer Project a commencé à exporter au grand export, donc en dehors de l'Europe, très tôt. Dès 2014, on a commencé à exporter au Japon. Et on trouvait ça extrêmement exotique. Mais de plus en plus, on s'est rendu compte que c'était très incohérent par rapport à beaucoup d'autres choses qu'on faisait pour avoir un impact positif. Et donc, on a fait ce choix difficile, effectivement, parce que c'est en plein contexte inflationniste. C'est surtout une question pour nous de focaliser tout notre temps, toute notre énergie sur des marchés qui ont plus de sens au point de vue écologique. Il faut savoir qu'exporter, par exemple, la bière au Japon, ça part en bouteille ou en fût plastique jetable. Et ça fait plus ou moins 2 mois de transport en conteneur réfrigéré sur des bateaux. Donc, quelque part, tout ce temps et toute l'énergie, toute la passion qu'on a pour la bière, on veut plutôt la dépenser sur des marchés proches, à commencer par la Belgique, mais aussi les pays limitrophes et l'Europe.
Mais bon, renoncer à 8 pays, n'est-ce quand même pas, d'une certaine manière, affaiblir l'entreprise ?
Je pense que de toute façon, comme entrepreneur, parfois il faut être un peu irrationnel. Et je pense que la décision maintenant d'arrêter le grand export, elle tombe un peu mal. Le grand export représentait jusqu'à 10% de nos ventes. Mais je pense que c'est toujours un peu ce qui a caractérisé aussi Brussels Beer Project et beaucoup d'entrepreneurs. C'est de prendre des décisions avec le feeling, avec les tripes. Et de se dire, voilà, on pense que c'est la bonne décision, c'est plus écologique, c'est plus en phase avec nos valeurs de nous concentrer sur le local.
Vous Vous connaissez Novadip, la société de biotechnologie de Mont-Saint-Guibert spécialisée dans la régénérescence osseuse. Elle lance une levée de fonds pour accélérer son développement et vient de conclure un tour de table de 40 millions d'euros, dont 24 en nouveaux fonds propres. Cet argent servira à financer des essais cliniques avec en ligne de mire rien de moins qu'une cotation sur le Nasdaq américain en 2024. Écoutez le CEO de l'entreprise, Denis Dufresne, nous expliquer.
Les 40 millions que Novadip a levés sont dédiés à la reconstruction de grands défauts osseux pour une pathologie rare pédiatrique que l'on appelle la pseudarthrose congénitale du tibia. Donc l'objectif de ce montant est de supporter l'étude qui va se réaliser à la fois aux États-Unis mais également en Europe. Nous allons développer cliniquement en Europe notre deuxième classe de produits qui est la matrice allogénique off the shelf, et c'est réellement l'ensemble de ces données cliniques qui vont véritablement permettre de mettre Novadip sur une rampe de lancement pour une potentielle entrée en bourse au Nasdaq fin 2024 et en 2025.
Une autre société de biotechnologie belge évolue, elle aussi, c'est Galapagos. Basée à Malines, active jusque-là dans le domaine des maladies inflammatoires et de la fibrose pulmonaire, elle entend à présent se focaliser sur l'immunologie et l'oncologie. Pour atteindre son but, elle a déjà acquis deux sociétés dans ce domaine, une américaine et une néerlandaise. Elle va cesser ses activités dans la fibrose et les maladies rénales et donc supprimer aussi environ 200 emplois sur ses sites européens. On ne connaît pas encore le nombre de postes concernés sur le site de Malines. C'est dans ce contexte que la société belge publiait hier soir ses résultats au troisième trimestre. Sa trésorerie est solide et son chiffre d'affaires en hausse. Sur les 9 premiers mois de l'année, la perte nette s'atténue fortement à 11 millions d'euros au lieu de 120 l'année dernière sur la même période. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau brief. Guillaume Cordeau était à la production de ce podcast. Passez un excellent week-end ou une toute bonne fin de vacances. À bientôt.